Radio Courtoisie, libre, sans publicité, sans subvention. 1,5 million d'auditeurs par semaine, des milliers d'écoutes en ligne. De 13 ans à 99 ans, vous nous écoutez. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en ligne. Désormais, les podcasts de Radio Courtoisie, les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous gratuitement. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Chers amis, et bienvenue dans cette deuxième partie de Restons Courtois où nous recevrons Alexandre Allégret-Pilot, député de la 5e circonscription du Gard.
Bonjour.
Bonjour. Voilà, vous êtes un habitué de Radio Courtoisie, d'une certaine manière. Vous appartenez au groupe UDR. Et c'est tout à fait plaisant parce qu'on vous sent du côté du peuple, en fait. Alors, vous venez de la fonction publique.
Oui, alors je viens du privé à l'origine et après, j'ai rejoint la fonction publique.
Alors, et ensuite, coup de folie, vous devenez député et vous décidez de partir en guerre contre ceux qui veulent interdire le canon français mais autoriser les rêves partis, contre ceux qui veulent empêcher un agriculteur d'utiliser son eau mais qui rêvent en fait de faire en sorte d'admettre tous les clandestins dans le pays. Vous allez déposer une proposition de loi pour défendre les croix en haut des montagnes. Et on sent absolument donc que tout ce qui est culture populaire vous tient à cœur.
Ah oui, je pense que j'ai bénéficié de beaucoup de choses, parce que la France m'a beaucoup apporté, en toute modestie, mais je suis conscient de l'environnement dans lequel j'ai grandi et beaucoup ont pu grandir, de tout ce que j'ai pu apprendre, et donc pour moi c'est un devoir de le protéger, et de rendre un tout petit peu de ce que le pays nous a donné, en tout cas m'a donné personnellement, mais a donné à tous les Français, et pour moi c'est un devoir.
Alors, c'est un devoir et vous avez l'impression donc, qu'une partie de la classe politique et notamment une partie de vos collègues à la Chambre s'acharne au contraire à détruire cet héritage.
Absolument. Alors, il y a plusieurs éléments de réflexion là-dessus. Le premier, c'est que moi, je viens pas du milieu politique. Alors, certes, je viens de l'administration, mais je viens pas du milieu politique. Je suis un citoyen comme les autres. Et souvent, on dit, voilà, vous êtes avec le peuple, contre le peuple, etc. Enfin, moi, je considère que je suis un élément du peuple, tout simplement. Je suis une partie du peuple, comme chacun d'entre nous. Ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est que on a des tentations démagogues et des calculs cyniques qui sont assez forts chez les élus, et en particulier chez ceux qui essaient de se reposer sur un électorat de substitution qui se trouve essentiellement à gauche par définition.
On est en train de parler de la nouvelle France de LFI.
Bah, c'est un peu le projet, vous voyez. Tout le monde le sait, mais faut le rappeler. Ils sont passés de l'électorat ouvrier à l'électorat étranger schématiquement. Leur projet est clair. Donc ça, c'est un calcul, à mon avis, un calcul qui repose en réalité sur cette haine de soi que vous avez évoquée, qui en réalité est une croyance ostentatoire, ce qu'on appelle les croyances ostentatoires ou les croyances de luxe, qui est équivalent à, si vous voulez, la gazelle qui va sauter devant le lion pour lui montrer qu'elle est en forme, elle, et qu'elle peut se permettre cette croyance ostentatoire, puisque en fait, elle ne sera pas affectée parce qu'elle est suffisamment forte par rapport aux autres gazelles, qui elles vont être dévorées par le lion.
Alors, effectivement, les gazelles en bout de troupeau bondissent moins et sont dévorées. Vous avez vous allez déposer cette proposition de loi sur les croix de montagne. Alors, ces croix de montagne, c'est une espèce de patrimoine rural, de patrimoine populaire. Alors évidemment, il y a la loi de 1905. Est-ce que la croix existait dans le paysage avant 1905 ou pas? Alors on se rend compte d'ailleurs que la loi est un peu imprécise parce que on parle de tout un tas de choses, mais le législateur n'avait pas imaginé qu'on allait mettre des croix en haut des montagnes passé 1905. Et donc il y a une espèce de trou et les ennemis de la religion catholique, les ennemis de l'identité française se disent qu'il faut absolument légiférer, et donc quand on légifère pas, en tout cas il faut aller détruire ces croix. Et donc là, un jeune garçon avait repéré une croix qui avait disparu dans les Pyrénées, il est allé la remettre en place, il s'est filmé, il était heureux, il avait travaillé lui-même pour sculpter cette croix, la bâtir, la porter, donc une espèce d'exploit, et à peine est-elle installée et que tout le monde applaudit que craque, la croix est arrachée de son socle et jetée. Il a expliqué qu'il allait la remettre, mais on sent en fait une espèce de, non seulement de haine du catholicisme, mais de vraiment d'anticléricalisme dont on était persuadé qu'il avait disparu, en fait.
Absolument. Mais qui est très ciblé sur une religion et plus même
ce
sur une culture.
Ce n'est pas tous les clercs, oui.
Au-delà de la religion. Effectivement, le législateur en 1905 s'est dit qu'une tradition allait s'arrêter. Parce que les croix, les vierges, les oratoires, c'est une dynamique. Elles sont posées avec le temps. C'est pas, on a un instant, on a une cartographie des croix, puis on s'arrête en 1905, on arrête de mettre des croix en montagne. Non, la conquête des sommets, c'est une conquête humaine qui est une conquête historique, qui évolue dans le temps. La conquête des alpages aussi, avec leur occupation, avec ces différentes vierges qu'on peut retrouver dans les alpages aussi, donc c'est pas que dans les sommets. Moi, c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi. Voilà, je suis né dans un milieu montagnard et campagnard, et j'ai grandi avec ces croix, avec ces vierges, avec ces oratoires, et ça fait partie, en réalité, quasiment du folklore local. J'ai jamais vu, titre personnel, alors j'ai passé beaucoup de temps, quelqu'un prier en haut d'une croix, devant une croix, en haute montagne. J'ai jamais vu ça. Pourtant, j'ai vu tout le monde ressentir une émotion spirituelle, esthétique, de l'effort, une émotion encore plus forte qui est matérialisée par cette croix, en haute montagne, ou en montagne, tout simplement. Donc ça fait vraiment partie de notre culture montagnarde, de notre culture campagnarde aussi, avec ce qu'on peut retrouver aussi dans les alpages, et c'est ce qui est attaqué. Mais ce qui est très très intéressant, c'est que les mêmes personnes qui vous disent que le foulard islamique n'est qu'un bout de tissu, considèrent que la croix n'est pas qu'un bout de bois. C'est quand même assez cocasse.
Oui, alors un voile islamique qui est effectivement préconisé par certains musulmans comme étant un signe religieux, le signe d'appartenance à une communauté religieuse. Enfin, autrement dit, eux sont très clairs sur le fait que c'est religieux et que c'est pas juste une manière de décorer, de mettre un foulard ou, comme prétendait ce crétin de Castaner, l'équivalent d'une mantille. Enfin, pardon, j'aurais dû maîtriser l'antenne. Si Monsieur Castaner nous écoute, ce qu'il fait sûrement, voilà, il n'est pas un crétin, c'est une opinion. Personnel.
On parle à deux hommes de foi, trois d'ailleurs. D'une certaine façon, ce laïcisme forcené est un respect paradoxal des choses saintes. On reconnaît leur valeur en les dénigrant. C'est-à-dire que si c'était qu'un bout de bois, si c'était qu'une croix, on laisserait passer et on n'aurait rien à faire. On recevait des fondations du privé hors contrat qui nous expliquaient que les inspections dans les établissements privés catholiques étaient très attentifs à la messe, à la prière, au sacrement. Or, si ce n'était que du pain, si ce n'était justement que des mains jointes, que des chants, que du bois, personne n'en a rien à faire, et en premier lieu, les athées ou pseudo-athées, et les laïcs ou pseudo-laïcs.
Absolument, oui, c'est une remarque que je ne m'étais pas faite, très intéressante. et si vous voulez, moi, je constate que les associations qui... parce que le cas que vous évoquez, je crois que c'est dans les Pyrénées,
oui.
Il y a un cas qui s'est passé dans le Gard, à Comps.
Donc, où, pas loin de chez vous.
Voilà, à peu près le même phénomène, où un individu, c'est un peu l'inverse, un individu veut mettre une croix, on l'a enlevée, la remettre, et on a des associations qui montent au créneau, qui sont des associations Ligue des droits de l'homme, etc., toujours un peu les mêmes, qui déguisent derrière une approche universaliste qui n'est pas du tout universaliste, qui a géométrie variable, qui tape toujours sur les mêmes, et qu'on n'entend jamais évoquer. Par exemple, je vous ai dit, je vous parlais du port du voile dans l'espace public, voilà, si vous parlez de laïcité, d'une croix dans un espace public, on peut réfléchir en parallélisme là-dessus. On ne les entend jamais là-dessus. Donc on voit qu'il y a une certaine hypocrisie. L'argument pourrait être recevable s'il y avait une approche égalitaire dans le traitement, ce qui n'est pas le cas. Enfin, je pense que là tout le monde l'a compris, hein, qu'il y a cette haine qui est très très forte, qui relève de la haine de soi vis-à-vis des chrétiens, vis-à-vis des catholiques, vis-à-vis de l'occupation de l'espace public. Moi, je vais évoquer un sujet qui est relativement lié à cela. Il y a quelques mois, des banderoles ou des peintures ont été déployées à Chamonix sur la Palestine. Grande banderole, soutien à la Palestine, une grande peinture, soutien à la Palestine, plusieurs dizaines de mètres. En soutien à la Palestine, et moi je m'étais insurgé en disant que la politique n'avait pas sa place dans nos montagnes, vous voyez. Et j'avais essuyé une vague de violence énorme en me disant, au contraire, tout est politique en montagne, etc. Ces mêmes personnes vont vous dire, pas de place pour les croix dans nos montagnes, vous voyez, alors que, pour le coup, les croix ont toujours figuré dans nos montagnes, parce que c'est des points de passage, dans les cols vous avez ça, dans les sommets vous avez ça, des chapelles dans les cols, vous avez typiquement... L'école des Aravis en Savoie, vous avez une chapelle. Ça va de soi.
Pour porter bonne fortune aux voyageurs, oui.
Exactement.
Oui. Voilà, et donc, il y a ce combat voilà, pour la chose populaire, pour la tradition ancrée. Et voilà, au bout du compte, qu'on soit catholique ou qu'on ne le soit pas, on est français, on est provençal, on est béarnais. Voilà, les croix font partie du paysage. Vous l'avez dit tout à l'heure, voilà, y en a bah, partout. Et elles sont nées au fur et à mesure. SOS Calvaire, je crois, est évalué à 200 000 croix qui couvrent le territoire français. Elles n'ont pas toutes été bâties en un jour.
Moi, je vais vous montrer quelque chose. Si on pousse la cohérence, cette cohérence idiote, je vais vous montrer le drapeau du Gard.
Avec effectivement la croix dite occitane au milieu.
Voilà, il y a une croix. Bon. C'est pas un bout de bois, mais si on veut être cohérent, bah, j'invite les laïcars, ou les anticléricaux fanatiques, à revoir tous nos blasons, tous nos drapeaux.
Alors,
drapeau savoyard ou drapeau gardois.
J'ai l'impression, hélas, Alexandre Allégret-Pélo, que vous êtes en train de, vous êtes en train de leur suggérer.
Ils sont partis là.
L'idée la plus néfaste. Moi, quand j'étais petit, il y avait des timbres qu'on léchait avec la bouche, et alors que maintenant ils sont autocollants, et il y avait toute une série des blasons des provinces françaises qui ont été systématiquement remplacés par ces horreurs de logos vert et bleu avec une fausse montagne, une fausse rivière, ouais. Une virgule ou une accolade. Enfin, c'est. Et voilà, donc on a supprimé les armoiries, et sans doute à la fois parce qu'elles évoquaient l'Ancien Régime, mais aussi parce qu'elles étaient pleines de symboles onis comme fleurs de lys et autres croix. Pour arriver sur quelque chose de plus sérieux, enfin, non pas que tout ce qu'on vient de dire n'était pas sérieux, mais on n'est pas non plus dans l'horreur, il y a cette proposition de loi sur la pédocriminalité que vous avez déposée. Et qui, selon vous, à juste titre, souligne en fait un échec systémique de l'État. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est mal de violer les enfants, bien sûr, il faut protéger les enfants, mais en fait, dans les faits, on se rend compte qu'avec l'affaire de pédocriminalité du périscolaire parisien, et qui vraisemblablement cache la pédocriminalité du scolaire parisien tout court, sans péri, on se rend compte que l'État est imprévoyant, même que l'État est coupable de légèreté, que l'État n'a pas mis en place la surveillance, que l'État laisse des personnes déjà condamnées pour des faits sexuels se représenter à des postes. On se rend compte, voilà, d'ailleurs, que la justice est terriblement laxiste. L'Observatoire des décisions de la justice régulièrement met en avant des pédocriminels qui sont relaxés par les tribunaux, non pas envoyés en prison, mais au contraire condamnés à 3 mois de prison avec sursis, alors qu'ils ont abusé d'une jeune fille ou d'un jeune garçon de 12 ou 14 ans sous la responsabilité de l'aide sociale à l'enfance, et donc prostitué par des mineurs ou des majeurs. Et donc les clients, en fait, ne sont pas condamnés par la justice. Donc on se rend compte qu'il y a un trou dans la raquette, et là, c'est quelque chose où, là aussi, le peuple est sensible. On se rend compte que l'État et l'élite a laissé tomber le peuple une fois de plus.
Certainement. Il y a eu un découplement, je ne sais pas si on peut dire ça comme de l'élite et du peuple, alors que l'élite a une mission. Moi, je suis quelqu'un d'élitiste. Donc je considère que l'élite est nécessaire, mais qu'elle doit accomplir sa mission. Et je ne suis pas convaincu que l'élite française soit déjà forcément représentative de ce qu'elle devrait être, en termes d'élite, mais aussi accomplisse bien sa mission. Je pense qu'au contraire, elle a trahi sa mission. C'est pour ça que le peuple n'a plus confiance dans son élite et qu'on se retrouve avec du complotisme parce que, par définition, on n'a plus confiance. Sur cette histoire de pédocriminalité, bon, vous l'avez souligné, naturellement, c'est condamnable, c'est condamné. Pour autant, ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir un peu les totems et les tabous dans notre société, et de voir comment ils évoluent avec le temps. Les grands sujets qui sont des répulsifs qui semblent, sur lesquels on ne peut même pas réfléchir, si vous voulez. Et force est de constater que la protection des enfants n'est plus ou n'est pas un totem dans notre société. Alors que c'est présenté comme tel, et alors que les Français le souhaitent comme tel. C'est-à-dire que, comme vous le soulignez, il y a ce décalage entre une discussion que vous pouvez avoir avec n'importe quel concitoyen et le cadre, le corpus législatif et les décisions de justice. Si vous prenez d'une part le corpus des décisions de justice et d'autre part le sentiment et la volonté de vos concitoyens, vous voyez quand même un vide béant. C'est énorme.
Alors, c'est ce que vous dites d'ailleurs dans votre proposition de loi, dans l'exposé des motifs. Ces deux affaires, donc le périscolaire parisien et une autre affaire à Lille, avec un babysitter condamné pour des violences sexuelles, ces deux affaires ne sont pas le produit d'une malchance, elles sont les symptômes prévisibles de lacunes législatives identifiées, tolérées et non corrigées. Donc là, tous les mots sont importants. Les symptômes prévisibles de lacunes législatives identifiées, tolérées et non corrigées.
Absolument.
Pourquoi ?
Eh bien, écoutez, je n'ai pas la réponse immédiate. Mais si vous regardez, j'aime bien raisonner en parallélisme. Prenez l'affaire Pellico, une affaire terrible. Vous avez eu, pendant 6 mois, peut-être un an, un certain nombre de spécialistes qui ont émis des réflexions sur la société française, sur la sociologie, sur le cadre légal, sur les évolutions à apporter, sur le regard qu'on devait porter sur l'ensemble des êtres humains masculins, ce genre de choses, si vous voulez. Et là, vous ne les entendez pas. Vous ne les avez pas entendus non plus sur l'affaire Pierre-Alain Cotinot, qui est une affaire d'un sordide extrême. Cette affaire-là, également du périscolaire parisien...
Ça vaut le coup de revenir deux secondes sur l'affaire Pierre-Alain Cotinot.
Alors Pierre-Alain Cotinot, moi je ne suis pas un expert de l'affaire, mais je me suis renseigné un petit peu. C'était un militant LFI de la cause LGBT qui gardait des enfants à domicile. Il devait travailler auprès de l'aide sociale à l'enfance.
Il était famille d'accueil.
Exactement, famille d'accueil. Et qui en réalité violait des enfants de 1 à 2 ans avec ses amis. Donc il se donnait rendez-vous à 5, 6, 7 et il violait des enfants qu'il tenait en laisse et faisait boire dans, dans la gamelle du chien, qu'il les droguait, il droguait ses enfants après les avoir sodomisés, etc. Donc c'est extrêmement sordide, c'est du viol en réunion, mais c'est plus que ça va bien au-delà du viol, c'est de la torture. Et on en a très peu entendu parler, on n'a pas eu cette analyse systémique, si vous voulez, dont on nous rebat les oreilles en permanence. On n'a pas eu de réflexion sur les mécanismes à mettre en œuvre. Et ça a été rapidement écarté. De même là, sur le périscolaire.
Le fait que ce soit un militant LFiste et LGBT n'est sans doute pas totalement accessoire dans le fait qu'on ait écarté la chose. Mais revenons à l'affaire qui nous occupe.
Là, sur cette affaire du périscolaire parisien, pareil, on a une affaire qui... Je prends l'affaire Pierre-Alain Cotinot, elle est en ampleur au moins égale, sinon plus problématique que l'affaire Gisèle Pellicot. Et si on prend l'affaire périscolaire parisien, c'est mille fois plus grave... alors que l'affaire Pellicot est gravissime, c'est mille fois plus grave que l'affaire Pellicot. Donc on devrait avoir, branle-bas de combat, la prochaine loi que dépose le gouvernement, c'est une loi pour mettre un terme à tout cela, mettre tous les cadenas, tous les verrous nécessaires, et on n'entend rien. On entend un garde des Sceaux qui nous dit « Ah oui, effectivement, on n'a pas vérifié les casiers judiciaires, il y a un petit sujet. » Il y a un petit sujet, en 2026. C'est pas comme si on découvrait la pédocriminalité dans les établissements où on a un contact très intense avec les enfants.
Rappelons que pour ouvrir un bar, café, restaurant dans n'importe quelle bourgade de France, on est obligé d'avoir un casier judiciaire vierge. Donc autrement dit, quand il s'agit de servir de la limonade, l'État est vigilant. Quand il s'agit de filer des enfants à des pervers sexuels, l'État s'en fout.
Alors on a une tolérance qui est gigantesque et qui est, on ne va pas se mentir, quand même liée, enfin, en tout cas moi je le vois, peut-être que je me trompe, mais c'est une lecture que j'ai, à une certaine mentalité socialiste. En 1977, on avait des intellectuels de gauche qui nous signaient une tribune en disant « Légalisons la pédophilie ». Schématiquement, c'était ça, la tribune de libération en 1977. En 2026, on a un scandale qui date quand même de plusieurs années dans le périscolaire parisien, sous une mairie socialiste, alors que Emmanuel Grégoire a lancé en 2015 un prétendu plan de lutte contre la pédocriminalité dans la ville de Paris. C'était lui qui supervisait ce plan et qui aujourd'hui nous dit « Je n'étais pas au courant. » Alors, je ne sais pas qui le croit.
Personne, mais effectivement, vous avez raison de le souligner. En fait, on a l'impression que personne ne le croit, mais que ce n'est pas une priorité du gouvernement. Vous décidez de lancer cette proposition de loi sur la pédocriminalité, justement en fonction des lacunes que vous avez, vous, identifiées, qui pour le moment sont tolérées, mais que vous entendez corriger. Quelles sont ces lacunes, précisément?
Il y a plusieurs lacunes. La première, c'est celle du périmètre. Puisque... actuellement, vous avez des obligations de vérification qui, en réalité, ne concernent pas le périscolaire. Donc, vous avez vérifié les agents de l'État. Vous n'avez pas vérifié, par exemple, ce qui se passe en colonie de vacances. Vous n'allez pas vérifier ce qui se passe dans les clubs de sport. Vous n'allez pas vérifier ce qui se passe dans la petite enfance de façon systématique. Donc, c'est un, ça ne concerne pas le périscolaire. Deux, c'est que inférieur à 3 ans. Donc, vous avez déjà un périmètre à ajuster. Vous voyez, ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous avez un enjeu de fréquence, de consultation de ces différentes... ça s'appelle le SI honorabilité, c'est un système d'information qui prend en réalité les éléments du casier judiciaire. Et moi, dans ma proposition de loi, je propose de l'imposer à tous les 12 mois. Il faut définir une fréquence, alors c'est quand même lourd, hein, donc si vous faites tous les 3 mois, ça devient beaucoup, mais au moins là, tous les 12 mois, vous avez une vérification. Troisième élément, on a un enjeu de périmètre géographique, c'est-à-dire que la technique classique, c'est je déplace un agent. Vous voyez ? Alors là, il y a un soupçon, je déplace un agent. Sauf que souvent, l'agent, vous allez le déplacer dans un autre établissement. Et il n'y a pas de suivi du dossier. Donc en fait, ça repart à zéro. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des gens qui sont des prédateurs, entre supposés ou non, et qui peuvent tenir pendant 15 ans sans aucune difficulté. D'autant plus que En général, les instructions judiciaires sont départementalisées. Donc moi je connais la technique, j'ai vu des gens faire ça, c'est-à-dire qu'ils avaient des procédures dans un département, ils changeaient de département, et puis ça rallongeait un petit peu les choses, vous voyez. Donc il y a aussi ce point-là. Et puis, et c'est intéressant, tout ça vous pouvez trouver sur le site internet du ministère même, et c'est que il y a une loi Mercier qui est passée, et qui n'impose pas à l'employeur de vérifier systématiquement donc ce casier. C'est-à-dire que l'employeur a la faculté de le demander. S'il ne veut pas savoir, s'il n'a pas le temps. Vous doutez bien, quand on est employeur, on a déjà une masse de paperasse administrative qui est assez importante. Il y en a plein qui doivent passer ça à l'AS, d'autant plus qu'il y a une pression sur le personnel. Hein. Tous les ans, c'est 3000 personnes recrutées pour s'occuper de la petite enfance. Donc il y a un roulement très important, c'est un métier à forte tension, c'est un métier qui est dur aussi.
Oui, c'est ça.
Donc, vous pouvez être plus ou moins regardant. Vous faites ce que vous pouvez parfois en tant qu'employeur.
Justement.
Donc, moi, ce que je propose, c'est de rendre cette vérification obligatoire. Et qu'à défaut de vérification, vous avez cette co-responsabilité de l'employeur. Vous n'avez pas fait. Vous n'avez pas respecté ces obligations de vérification. Un enfant qui était sous votre charge indirectement, sous votre contrôle indirectement, a subi des sévices sexuels ou autres. Eh bien, vous êtes co-responsable. Il n'y a pas que le malfaiteur, entre guillemets, qui est responsable. Ça force l'employeur à vérifier un peu mieux.
Rappelons que dans une commune française, si un enfant a un accident parce qu'en fréquentant le terrain de foot municipal et en se suspendant au poteau des buts, les poteaux se sont rompus ou la cage lui est tombée dessus, le maire est responsable. Donc autrement dit, il y a une responsabilité accrue dans un nombre de domaines où on pourrait dire, après tout, si le gamin se pend aux poteaux qui ne sont pas faits pour ça, on ne voit pas pourquoi le maire serait responsable. Là, le maire est responsable. Ici, non. Dans dans les attendus de votre proposition de loi, donc dans l'exposé des motifs, il y a quelque chose que vous venez d'exposer, mais je voudrais y revenir. Donc, c'est le dispositif du SI Honorabilité, donc ce système d'information. Il est expressément réservé au secteur de l'aide sociale à l'enfance et des modes d'accueil du jeune enfant d'au moins 3 ans. C'est-à-dire, passer 3 ans, ça n'existe plus. Et comme si les pédophiles, comme si avant 3 ans, c'est grave. Après 3 ans, non, ben si, en fait. Par un courriel du 5 mai 2025, la Direction Générale de la Cohésion Sociale a explicitement précisé que les agents périscolaires ne sont pas concernés par le système d'information ici et non invité. Donc, on est en train d'organiser le fait que ça ne marche pas. Et le site officiel du ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, j'adore ces titres ministériels, si jamais l'UDR réussit à être au pouvoir, soyez sympa, simplifiez le truc, affiche un bandeau indiquant que la démarche est interdite, carrément interdite pour les secteurs de l'enseignement, du périscolaire, des colonies de vacances, du sport et des structures pour personnes âgées et handicapées. C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit de vérifier les antécédents.
Et ça s'étend en dessous des 3 ans pour le coup. Vous voyez, c'est périscolaire, c'est même en dessous, inférieur à 3 ans.
Oui, non, mais c'est ahurissant.
Donc, il y a une loi qui prétendument est venue corriger ça, qui est en cours, qui a été voté au Sénat, qui a été déposé à l'Assemblée, qui n'est pas encore voté, qui vise à informer l'employeur de cette faculté. Vous voyez, c'est juste on informe l'employeur de cette faculté, on rend la possible à certaines vérifications. Moi, ce que je propose, c'est sur tout ce domaine, la vérification est obligatoire. Vous travaillez avec des personnes vulnérables, qu'elles soient très âgées ou très jeunes, par définition, certaines précautions semblent nécessaires. Au-delà de ça, l'autre enjeu qu'on a, et c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au délai, on a un enjeu, c'est celui de prévenir le danger tout en tenant compte de la présomption d'innocence. Parce que souvent, vous avez des personnes qui sont en fait... Il y a un procès qui est en cours, une instruction qui est en cours, mais ça prend 5 ans. Et qu'est-ce que vous faites? Vous voyez? Donc, en droit du travail, quand on a un sujet de harcèlement, qu'est-ce qu'on fait dans une entreprise? On ne sait pas si le harcèlement est avéré ou pas. Mais la technique, c'est la mise à pied conservatoire. C'est-à-dire que la personne est mise à pied, c'est-à-dire qu'elle continue à toucher son salaire, elle est mise à pied de façon conservatoire. Actuellement, dans les sujets de pédocriminalité ou de violence sur enfant, ce qu'on constate, c'est que la personne est déplacée d'établissement. C'est une sorte de mise à pied conservatoire, si vous voulez, sauf qu'elle continue à travailler. Donc c'est pas vraiment de mise à pied. Pour permettre cela, pour permettre donc l'équivalent de cette mise à pied conservatoire, pour empêcher qu'elle soit contournée par un saut de puce dans un autre établissement ou dans un autre département, je propose de créer un fichier, le fichier des signalements. Voilà. Mais ça, c'est très délicat, parce que vous voyez, l'enjeu de la présomption d'innocence. Donc vous créez un fichier des signalements, fichier qui doit être effacé dès lors que la personne a été reconnue innocente, en sachant que c'est juste un fichier de signalement. C'est assez délicat, ça, comme sujet, vous voyez, parce que ça peut être instrumentalisé.
Oui.
c'est assez facile. Oui, c'est Julien Bayou est bien au courant de ça. Oui.
Mais il y a déjà, des fichiers S. Oui, pardon, excuse-moi, Lucien.
vous vous doutez, monsieur le député, de la question que tout le monde se pose. Pourquoi cette affaire? Pourquoi cette négligence? On vit tout de même dans une saisie du signalement. La circulaire royale, qui visait à libérer la parole des enfants alors qu'elle était ministre de l'enseignement scolaire, avait aussi donné lieu sur la révélation d'affaires sordides et aussi sur de tragiques erreurs judiciaires. On se souvient de la naïveté de la justice quant à l'affaire Doutreau. Vous disiez que la société est assez négligente sur le sort qu'elle laisse aux enfants. Je pense quand même que la société a conscience que les enfants sont en danger. Et les gens qui travaillent dans le monde éducatif, je suis professeur, sont quand même très alertes sur ces sujets-là. Et tous les directeurs d'établissement, etc., savent que, par exemple, il faut prendre ces choses au sérieux, y compris sur les sujets que vous évoquez, ceux d'une éventuelle dénonciation calomnieuse, ceux d'une éventuelle erreur judiciaire. Et là, tout d'un coup, on tombe sur une affaire de laisser-faire total, sans signalement, avec une négligence absolue. Alors on se dit, comment, dans une société qui est quand même assez sensible à ces sujets, comment une société qui est quand même celle aussi du signalement, où, par exemple, des profs de sport vous disent que si une fille se fait mal à 15 ou 16 ans au collège, il ne lui porte pas secours parce qu'on ne sait jamais comment, quel geste même de secours pourrait être interprété. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi est-ce que là, tout d'un coup, à la mairie de Paris, il y a un laisser-faire absolu, il y a une négligence absolue qui aurait duré plusieurs années, n'est-ce pas? Est-ce que c'est de l'incompétence pure? Est-ce qu'autre chose est à l'œuvre? Est-ce qu'un réseau aurait agi de façon dormante? C'est un peu la question que tout le monde se pose devant cette affaire. Est-ce qu'on a la réponse à cette question?
Ça ne peut pas être que de l'incompétence. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas laisser perdurer ce genre de situation sur la seule base de l'incompétence alors que vous en avez conscience. Et que à la mairie de Paris, pour rappel, hein, c'est 55 000 agents. Donc c'est énorme. Mais c'est aussi des personnes extrêmement bien formées. J'ai beaucoup de camarades de l'ENA qui travaillent à la mairie de Paris. Vous voyez, c'est des gens qui connaissent le droit. Alors, c'est pas eux qui s'occupent en direct des enfants. Mais vous avez une chaîne hiérarchique, c'est une énorme entreprise quand même, la mairie de Paris. Comparer ça à une entreprise, c'est pas la PME du coin, hein. c'est pas l'artisanat, la mairie de Paris. C'est une très très grosse structure qui devrait donc reposer sur des. Bah, qui doit reposer sur des procédures assez strictes, oui. Bien cadrées, etc. C'est pas le cirque normalement.
Alors, toutes les enquêtes qu'on a menées à Radio Courtoisie prouvent au contraire que c'est quasiment du cirque, puisque ceux qui sont en charge du recrutement des animateurs périscolaires ne sont, par exemple, sont désignés par la mairie de Paris, qui ne vient jamais les inspecter des années durant. Et eux-mêmes recrutent les animateurs du périscolaire.
Mais la question, c'est pourquoi
c'est sans doute parce que la mairie de Paris considère, là comme ailleurs, que... il y a une espèce de présomption d'innocence permanente, quand on est travailleur social, on est forcément quelqu'un d'admirable.
Enfin, on remonte la chaîne causale quand même. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait un tel laisser-faire spécifiquement à la mairie de Paris pendant toutes ces années?
Je pense qu'il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. Premièrement, il y a une dimension idéologique. Moi, je vous le dis, hein, c'est mon avis très perso, mais je pense que les socialistes ont toujours été relativement coulants avec la pédocriminalité. Pour le dire de façon très modeste. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on a cet enjeu d'alignement des intérêts ou de conflit d'intérêts entre je suis à la fois employeur et je suis à la fois l'élu. Quand même, ça commence à faire une taille critique, 55 000 agents, qui sont pour la majorité des électeurs à Paris. Est-ce que ça joue pas aussi un petit peu? J'ai pas la réponse, hein, mais est-ce que ça joue pas? Je maintiens aussi, on le sait, dans certaines collectivités, l'emploi ou la subvention, c'est une façon aussi de faire du clientélisme.
Il y aurait du clientélisme derrière cette affaire.
Je ne sais pas. Mais ça fait partie peut-être des éléments qui viennent s'ajouter à cela. Après, il y a certainement aussi un effet qui peut être l'effet de la peur du scandale. Mais ça, plus vous avez peur du scandale, plus vous attendez, plus ça fait un scandale à un moment. Mais je pense qu'il est certain qu'à un instant, ça a été le cas. Il va voir combien de mois, combien d'années ça a duré, cette peur du scandale.
Oui.
Et qui fait que
c'est momentané en général.
Oui, ça peut pas être tenir indéfiniment.
Enfin, on a vu avec l'affaire des grooming gangs anglais que la peur du scandale peut durer des décennies.
Je vous assure que ceux qui travaillent auprès de l'enfant, ceux qui travaillent auprès des jeunes gens, sont conscients de ces sujets. et prennent au sérieux ces sujets. Il n'y a pas un directeur d'établissement qui aujourd'hui vous dirait « passe ça par-dessous la jambe, écoutez, ça n'existe pas, c'est une vieille affaire, comme vous dites, c'était la mode des années 70, etc. » Tous les directeurs d'établissement de France et de Navarre savent qu'ils doivent rendre des comptes sur ces sujets, savent qu'il y a des plateformes de signalement, savent que les parents sont vigilants. Et d'ailleurs, on a raison de l'être au vu de négligence mais totalement dystopique, celle des années 70-80. Et là, il y a une zone de non-droit. Là, il y a une zone de non-droit.
Mais si vous voulez, alors, au-delà de la dimension parisienne, si on revient sur le corpus législatif, aujourd'hui, si un encadrant est suspecté d'avoir été violent ou commis des attouchements sur enfant, la famille n'est pas informée. La famille n'est pas informée automatiquement. Il n'y a pas d'obligation d'information de la famille. Mettons un individu suspecté, il change d'établissement. La famille n'est pas au courant, et vous vous retrouvez avec un petit garçon ou une petite fille qui, 15 ans plus tard, ou 20 ans plus tard, va dire « j'ai été attouché par machin ». Et on se retrouve avec, vous savez, des effets vagues qui arrivent 20 ans plus tard où il y a 10 personnes différentes qui... désigne un individu.
Mais une question d'entrave à l'enquête, non ? Sur la suspicion.
Mais il n'y a pas d'enquête parlementaire, jure. C'est ça qui est très
enquête
étonnant
policière.
Aussi.
L'entrave à l'enquête, c'est pas forcément une entrave à l'enquête de dire qu'il y a une suspicion qui vient de l'établissement. C'est pas forcément une suspicion qui vient de la dimension judiciaire. Que l'établissement a décidé de mettre à pied de façon conservatoire un individu. Ça ne me semble pas totalement délirant dès lors qu'il y a une suspicion. Et effectivement, on a toujours le problème, alors, au-delà de l'entrave à l'enquête, de la présomption d'innocence. Ça, c'est fondamental. Donc c'est à manier avec précaution. Toujours est-il que vous ne pouvez pas avoir des individus qui sont particulièrement vulnérables et ne pas avoir un mécanisme de protection adapté. Notre droit est comme ça. Si vous avez une vulnérabilité particulière, vous avez davantage de droits. Vous avez une protection supplémentaire.
Mais vous trouvez que l'éducation nationale est négligente, par exemple, sur ce sujet ?
Je pense qu'on a beaucoup d'affaires qui arrivent assez régulièrement.
Non, mais enfin, pardonnez-moi, monsieur le député, je réponds à votre place. Vous parliez des 55 000 employés de la mairie de Paris. Là, il y a 1 million de personnes qui travaillent directement ou indirectement pour l'éducation nationale.
Oui.
Et quand on avait posé à Najah Vallaud-Belkacem la question des violences sexuelles dans l'éducation nationale, à l'époque où Najah Vallaud-Belkacem, ce caméléon et ce phénix de la politique, était ministre de l'éducation nationale, elle avait vaguement réussi à repérer 15 cas problématiques sur 1 million de personnes sur plusieurs dizaines d'années. Voilà, comme si l'intégralité du personnel de l'éducation nationale en France est plus vertueuse que l'intégralité des communautés humaines depuis l'Antiquité, sous quelque latitude que ce soit. C'est débile. Et évidemment qu'il y a des problèmes dans l'éducation nationale, avec en plus, vous nous parlez de la manière dont personne n'est obligé de signaler. Les élèves violents changent de lycée sans que le dossier de la violence de l'élève le suive. Ce qui fait qu'il y a un psychopathe qui part du lycée Fénelon pour arriver dans le lycée Voltaire ou du lycée Rosa Parks pour arriver dans le lycée Vladimir Lénine, et sans que personne ne sache que le jeune Enguerrand, car vraisemblablement il s'agit d'Enguerrand, est en fait violent et passe sa vie à regarder sous les jupes des filles ou à larder ses camarades de coups de compas, si tant est que ça fasse encore partie du...
Il y a effectivement de très nombreuses affaires sur tous les métiers qui touchent à l'enfance et à la jeunesse, et l'éducation nationale, il y a quand même des affaires qui sont jugées. Pour le périscolaire, vous disiez que c'est un métier dur. Est-ce que le problème de ces métiers, éducation nationale, périscolaire, éducation, sont qu'ils n'attirent plus, sinon éventuellement des gens qui ont encore la vocation, et aussi, effectivement, ce type de public, des psychopathes, etc., puisque ce sont des métiers qui ne sont plus ni rémunérés ni dégradés, qu'on tombe à faire le fond de cuve et à trouver effectivement pour encadrer les enfants des...
Il y a plusieurs éléments de réflexion. Premièrement, ce que vous disiez sur l'éducation nationale par rapport au volume, ça explique aussi pourquoi au-delà de ce sujet-là, le bateau éducation nationale est difficile à manœuvrer. Si vous voulez faire un cadeau empoisonné à n'importe quelle personne qui veut être ministre, vous le nommez ministre de l'éducation nationale, ce qui ne pourra rien faire. Les syndicats sont beaucoup trop puissants, les enseignants sont beaucoup trop puissants, il ne pourra rien faire bouger à l'éducation nationale. Vous voyez ? C'est encore plus dur que la SNCF. Donc ça, c'est un premier point, et c'est aussi peut-être pour cela que Najah Vallaud-Belkacem n'a pas secoué trop le navire, vous voyez, parce que c'est vrai qu'elle allait y passer, quoi. Deuxième point, c'est des métiers où, par définition, vous allez attirer des gens qui sont déviants sexuellement ou physiquement vis-à-vis des enfants, par définition.
Ils ne vont pas aller bosser en EHPAD.
Voilà, mais en EHPAD, vous allez attirer un autre profil aussi.
Oui.
Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous suspects, mais ça veut dire que, par définition, vous allez...
C'est certain que quelqu'un qui a des tendances pédophiles va plutôt travailler avec les enfants que ailleurs.
Donc déjà, vous avez un taux qui sera supérieur. Par définition, ça, je ne vais pas dire qu'on n'y peut rien, mais par définition, il y a une prévalence qui peut difficilement être inférieure au reste de ce que vous trouvez dans les autres milieux. Donc ça, c'est le deuxième point. Troisième point, effectivement, on a un sujet aujourd'hui de priorité dans nos finances publiques. et c'est un sujet qui va même au-delà de ça. C'est, moi, j'ai des fermetures scolaires un peu partout dans ma circonscription, mais ça montre aussi de ce qu'on décide en termes de priorité, de là où on décide de mettre notre argent. On est dans une société qui n'investit plus dans l'avenir. Et investir dans l'avenir, c'est déjà investir pour avoir des enfants qui, à 4 ans, sont sociabilisables, je ne sais pas comment dire ça, sociabilisables plutôt. Sociabilisables, c'est ce que fait la mairie de Paris. Mais donc, on va essayer de faire ça. Et donc, pour ça, il faut déjà qu'ils aient pas subi des sévices sexuels. Ça aide un peu. Donc, ça devrait être effectivement une des priorités pour être sûr qu'on ait des citoyens qui soient intégrés, épanouis. Mais aujourd'hui, on constate qu'on a un investissement qui se dégrade. Alors, on va vous dire, oui, mais relativement au nombre d'enfants, l'investissement est maintenu. Toujours est-il qu'on constate qu'on ferme des salles de classe, qu'on ferme énormément de structures, qu'on a du mal, qu'on paye mal les agents, et que ces gens-là préfèrent, lorsqu'ils vivent dans des zones frontalières, aller travailler de l'autre côté de la frontière, par définition. Donc en plus, on les a formés et on les perd. Donc ça pose la question de nos priorités.
Donc on recrute parfois des contractuels, lesquels ne font pas l'objet de la même vérification que les agents publics d'État, qui eux doivent présenter comme un casier judiciaire en passant le concours, etc.
Exactement. Vous avez une pression sur la main-d'œuvre, entre guillemets, qui est énorme, et qui fait qu'on va vite, du coup, dans les recrutements, qu'on n'a pas forcément l'embarras du choix, et qu'on prend des profils qui eux-mêmes sont plus fragiles que ce qu'on aimerait. Donc vous mettez un individu vulnérable, un enfant vulnérable avec un profil fragile, sans parler de psychopathe, hein, par définition, ça peut déraper.
On a plusieurs questions de la part des auditeurs de Radio Courtoisie. L'un qui nous dit « Ne pensez-vous pas que ces scandales à répétition ne sont que l'application active du programme sur la sexualité, donc l'éducation à la vie affective et aux relations sexuelles, le programme EVARS, imposé dès la maternelle ?»
C'est peut-être l'inverse. C'est peut-être les personnes qui sont liées à ces tendances-là qui poussent le programme EVARS.
Oui. Voilà. Alors, et un autre nous dit « Bonsoir messieurs, pourriez-vous évoquer le scandale de l'aide sociale à l'enfance présenté dans l'émission Complément d'enquête sur France 2 ? Deux tiers des filles de 12 ans seraient prostituées à l'extérieur de leur foyer d'accueil censé les protéger. » Alors, je me permets de rappeler qu'il y a eu plusieurs émissions sur Radio Courtoisie qui sont toutes en ligne, et notamment sur la chaîne vidéo de Ligne Droite, avec Michel Hamas, qui est l'avocat spécialiste de l'aide sociale à l'enfance. Nous avons nous-mêmes abordé à plusieurs reprises, donc sur cette antenne, sans attendre Complément d'enquête, le problème de l'aide sociale à l'enfance, et donc qui effectivement, les chiffres oscillent entre 15 et 20 000 mineurs placés sous la protection de l'État et qui seraient en fait prostitués, avec une fois de plus une justice totalement laxiste dans la manière d'incriminer les proxénètes et les clients des 60 proxénètes.
60 000 mineurs en danger en France, selon certains chiffres et certaines enquêtes.
Voilà. C'est complètement dingue.
Il a raison.
C'est complètement dingue. Mais au-delà même de... Enfin, au-delà. Vous avez ce sujet, sanitaire, social, qui est terrible, mais qui montre aussi la paupérisation de notre pays. Parce que mine de rien, le tout premier facteur de cette situation-là, c'est une paupérisation du pays. Des gens qui sont socialement, financièrement pauvres. Donc, vous pouvez difficilement régler le problème si vous fermez pas un peu le robinet, d'une façon ou d'une autre. Le robinet, c'est un, avoir un pays qui est un peu plus riche, et deux, importer moins de pauvreté.
Et même d'une pauvreté qui, culturellement, n'a pas forcément, effectivement, les mêmes mœurs. Monsieur le député, quelle chance a votre loi d'être votée ?
Eh bien, ça dépend, parce que j'ai lancé une petite pétition sur mon site pour essayer de faire monter un peu tout ça, pour montrer à la présidence de l'Assemblée nationale qu'il y a une appétence très forte, qu'il y a un besoin, une urgence. Et donc, ça dépendra de ça.
Alors, votre site, c'est alexandregrépilot.fr. Voilà, en un seul mot, hein. Alexandre Allégret avec deux L, A2LEGRET, Pilot, PLIOT, .fr.
Ouais, et donc, voilà. Donc, on voit mal sur la base de quels arguments on peut rejeter votre proposition de loi. Puisque, à part monsieur mal coiffé.
Ça dépend des jours. Non.
à part, j'aime pas les trois lettres de son sigle de groupe, etc. C'est UDR ou RN, je ne sais plus.
UDR.
En général.
Quels arguments on va vous
savez, opposer. Ça va être très simple. La plupart de mes propositions de loi, je les envoie à la signature de tous mes collègues. Et c'est assez intéressant de voir qui signe et qui fait semblant de ne pas avoir vu. Donc celle-là, je vais l'envoyer à tous mes collègues. Et je publierai, vous pourrez voir, ce sera public, la liste de ceux qui l'ont signée.
Parce que voilà, celui qui est à l'origine d'une loi, effectivement, propose à ses collègues d'être co-signataire. Et donc, la loi Yadan a été signée par des gens aussi intelligents que François Hollande. Mmh. Voilà. Donc, les lois Allégret-Pilot peuvent être signées par d'autres gens. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir un point de vue partisan? Pensez-vous que les gens du Parti Socialiste ou de LFI refuseront de signer une loi contre la pédocriminalité juste parce que vous êtes du DR?
Je crois, alors j'ai déposé à ce stade...
Parce qu'il vous est arrivé de voter des lois oui. LFI.
Oui, oui, mais j'ai ce défaut de ne pas être trop sectaire. Mais j'ai déposé 4 ou 5 propositions jusqu'ici, je crois n'avoir reçu aucune signature LFI jusqu'ici. Donc on va leur laisser une dernière chance.
Voilà. Lutte contre la haine affectant les harkis.
Ah, ça c'était très intéressant.
Voilà, 31 signataires. Donc exactement. Ça veut dire qu'il y a en France 540 députés qui considèrent qu'on peut haïr les harkis, tranquillou...
Qui considèrent que ma loi n'était vraiment pas pertinente. J'étais sûr que j'allais recevoir beaucoup de signatures de la gauche. J'ai reçu un socialiste indépendant dans mes signataires. Vous pouvez voir, j'ai une personne de gauche indépendante qui a signé. Et les filles, personne n'a signé.
Par un député fraîchiste de Montpellier.
Alors qu'ils se sont dit... Enfin, les filles prétendent défendre les minorités. Je pense que les harkis constituent dans notre pays une minorité. Ils sont d'origine algérienne, ils sont bien souvent de confession musulmane. Pourtant, ils n'ont pas signé. Serait-il clientéliste? Aurait-il fait le calcul en disant « Oh, j'ai une autre communauté qui est un peu opposée aux harkis dans notre pays, qui compte davantage en termes de nombre ?» Je ne sais pas.
Tout est permis. Alexandre Allégret-Pilot, cette loi sur la pédocriminalité, évidemment, les affaires récentes que vous exposez dans les motifs vous ont alerté. Vous en étiez conscient auparavant ou ça faisait partie de ces choses, en fait, tant que le scandale n'existe pas, sont un peu compliquées à appréhender pour un élu du peuple?
C'est pas compliqué à appréhender, mais le problème, vous l'avez souligné, c'est celui d'être mis en haut de la pile des propositions de loi. Et moi, je suis un jeune député, c'est pas longtemps que je suis élu, je suis dans un groupe qui n'est pas immense à l'Assemblée nationale, hein, on est 17, donc ma capacité à déposer une loi à ce qu'elle soit votée, est faible. Pour avoir une chance de la faire voter, il faut que je puisse m'appuyer sur vous, sur vos auditeurs, sur beaucoup de personnes, en réalité. Et si j'ai pas, je vais pas dire un fait divers, mais un événement extérieur qui me permet de mobiliser, ma probabilité d'avoir mal au voté, c'est zéro. C'est zéro, tout simplement. Là, ma probabilité d'avoir mal au voté, c'est peut-être 5%.
Eh bien, voilà. Donc, nous redisons aux auditeurs, Alexandre Allégret-Pilot en un seul mot.fr. Il y a une pétition qui est en ligne. Voilà, faites en sorte de donner à cette pétition les moyens d'atteindre les oreilles de Yaël Braun-Pivet, qui pour le moment est occupé à lire Paris Match pour vérifier si Charles Alloncle tient la main ou pas de son assistante parlementaire. Important. Il y a des sujets beaucoup plus importants que la pédocriminalité dans le périscolaire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à demain sur Radio Courtoisie pour un Restons Courtois qui sera animé par Arthur de Vatrigan.
Merci.
Ça suffit maintenant.